Salut à toutes et à tous. Au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons JJ Shinobi, Trip World, Treasure Island, Taekwondo, et nous finirons avec un dossier sur l'Action Max. Bienvenue sur Rétrovision. La voici, la voilà, finalement la 7e saison est amorcée avec à la réalisation moi-même, Robin, Julien F et Sima X pour vous faire découvrir ou redécouvrir les merveilles du passé qui embellissent notre quotidien. Et on commence avec le premier test, JJ Shinobi sur Game Gear. JJ Shinobi est, comme son nom l'indique, une version de Shinobi développée pour la Game Gear. Sorti en 1991 en Europe, ce jeu est le digne successeur du célèbre Revenge of Shinobi, sorti sur Mega Drive 2 ans plus tôt. Le jeu vous propose d'incarner une nouvelle fois Joe Musashi, qui doit sauver 4 de ses compagnons après être parti enquêter sur un mystérieux ninja noir provoquant la zizanie dans Neo City. Chacun des ninjas vous donnera alors de nouvelles armes et de nouveaux pouvoirs. Par exemple, le ninja rose se sert de bombes, le ninja vert attaque avec des shurikens, etc. Et chaque ninja possède aussi son propre ninjatsu, une sorte d'attaque spéciale dévastatrice. Vous pouvez à tout moment changer de ninja, ce qui permet au jeu d'avoir un level design spécialement ingénieux. Les niveaux sont relativement simples, mais il vaut mieux respecter un certain ordre pour se faciliter la tâche à la manière d'un Megaman. Néanmoins, le dernier niveau du jeu Neo City est particulièrement difficile et de nombreuses portes vous feront revenir en arrière. Mais vous trouverez sur votre parcours des vies supplémentaires, des attaques spéciales et de l'énergie pour vous aider tout au long de votre quête. Bon, alors, si on devait lui reprocher quelque chose, ce serait sans doute l'absence de sauvegarde ou de mot de passe qui vous oblige à finir le jeu d'une traite, ce qui est assez gênant pour un tel jeu sur console portable. Par contre, les graphismes et les musiques font vraiment honneur à la Game Gear. Pour résumer, on peut dire que ce jeu est vraiment prenant et on y retourne, même après 20 ans, toujours aussi facilement. C'est un bon jeu à se procurer d'urgence, surtout si on est fan de Shinobi. Sorti il y a une vingtaine d'années sur notre bonne vieille Game Boy monochrome, Trip World vous met dans la peau de Yakopu, une créature vaguement lagomorphe vivant sur une planète dont l'équilibre et l'harmonie sont maintenus par la fleur Maïta. Cela ne durera évidemment pas car le grand-père de Yakopu, gardien de la fleur, sera vaincu par un être maléfique qui s'emparera de la plante. Il en va donc du devoir de notre bestiole d'aller récupérer la fleur Maïta pour préserver l'équilibre de ce monde. La première chose qui étonne dans Trip World est la qualité de sa réalisation. Les graphismes sont incroyablement soignés, détaillés et lisibles pour la petite portable. Votre aventure sera également ponctuée d'excellents thèmes musicaux dont seul le Sunsoft de la grande époque savait les faire. Le second point qui surprendra le joueur est le gameplay. S'il se joue comme un jeu de plateforme classique, l'univers de Trip World est parsemé de créatures qui sont très majoritairement inoffensives. Le contact avec ces créatures ne vous causera aucun dégât et leur comportement sera très varié envers vous. Certains ne feront rien de spécial, d'autres essaieront de vous bloquer ou de vous pousser dans le vide. Quelques-uns s'enfuiront à votre vue et d'autres vous suivront. Pour faciliter la traversée des niveaux, Yakopu pourra se transformer soit en poisson pour avancer plus rapidement dans les zones aquatiques, soit user de ses longues oreilles pour planer dans les airs. On notera d'ailleurs quelques similitudes avec Kirby ainsi que Megaman. Pour se débarrasser des ennemis, notre bestiole donnera des coups de pied. Leur portée est franchement ridicule, mais c'est ce qui permet de rehausser un peu la difficulté qui, vous l'aurez compris, est assez anecdotique. Le jeu sortit dans un quasi-anonymat au Japon, tiré à très peu d'exemplaires. Celui-ci a toutefois eu l'honneur d'une distribution extrêmement limitée en Europe, où il n'a apparemment été commercialisé qu'en Allemagne et en Autriche. Ce qui en fait le jeu Game Boy le plus rare et le plus cher de cette machine, donc très prisé des collectionneurs. Toutefois, si vous voulez tester ce jeu, sachez qu'il est disponible depuis le début de l'année 2012 sur la Virtual Console de la 3DS. Quant à notre petit Yakopu, bien que passé totalement inaperçu, celui-ci a marqué les esprits des développeurs de Sunsoft qui réutiliseront le personnage comme boss d'un jeu de baston sur Neo Geo. Et oui, ce dernier sera le premier boss que vous devrez affronter dans le jeu Galaxy Fight. Et il mettra à profit ses capacités de transformation pour mimer son adversaire. Un doppelganger en quelque sorte. Treasure Island est sorti en 1984 et est inspiré de l'œuvre de Robert Louis Stevenson, vous mettant dans la peau de Jim Hawkins. Le jeu se décompose en trois phases distinctes. La première, dans laquelle le moussaillon doit éviter des ennemis pour atteindre les quais. La deuxième, où l'on doit sauter de tonneau en évitant la main des méchants pirates. Et ensuite, la phase la plus longue et de loin la plus intéressante, la phase aventure. Vous débarquez sur l'île au trésor qui n'est autre qu'un énorme labyrinthe où vous devez trouver la grotte de Ben Gunn. Les pirates vont vous barrer le chemin, mais pas de panique, ils restent statiques et tirent des épées que vous pouvez récupérer pour éliminer d'autres pirates vous barrant le chemin. Cependant, vous ne pouvez pas cumuler les épées, donc bien faire attention à leur utilisation. Vous devez récupérer différents éléments sur l'île, abattre certains pirates tout en évitant les pièges et les épées tranchantes pour pouvoir embarquer sur le navire Hispaniola avec le trésor et partir enfin de cette île. Le jeu est plutôt joli et les bruitages, bien que sommaires, ne dépareillent pas avec le reste. N'oublions pas que nous sommes en 1984 sur un support assez limité. Pour conclure, c'est un jeu fort sympathique qui, même quasiment 30 ans plus tard, vous replongera dans l'ambiance de l'époque malgré ses quelques petits bugs graphiques. Les années 90 furent une période faste pour les jeux de baston et beaucoup d'éditeurs tentèrent leur chance avec plus ou moins de succès. Human Entertainment étant un studio qui ne faisait rien comme les autres, celui-ci choisit donc de sortir en 1994 une simulation de l'art martial sud-coréen, le Taekwondo. Sobrement appelé Taekwondo, le jeu propose des modes plus variés que ce que les autres jeux proposaient à l'époque. En plus de l'habituel mode histoire, du mode versus à deux joueurs ou contre les CPU, ainsi que les inévitables options, le soft dispose d'un mode tag battle où vous formerez une équipe de 3 combattants pour affronter une équipe adverse, ainsi que d'un mode tutorial où vous apprendrez pas à pas toutes les techniques de cet art martial. Le mode histoire débute par le choix du personnage. Vous pourrez sélectionner un avatar de base ou en personnaliser un à votre guise en modifiant son nom ainsi que toutes ses techniques de combat. Un système de mot de passe permettra de conserver les statistiques de votre combattant. Une fois le perso prêt à l'affrontement, vous participerez à 4 championnats qu'il vous faudra bien évidemment remporter. Mais la chose sera rendue plus âpre lors de la dernière compétition avec l'arrivée de 3 frères extrêmement forts qu'il vous faudra défaire. Human étant un champion de la mise en scène, le combat final aura un tournant inattendu et vous offrira un spectacle des plus épiques. Mais ça, je vous laisse le soin de le voir par vous-même pour ne pas gâcher la surprise. Les combats se déroulent dans les règles les plus strictes du taekwondo. Les matchs d'une durée de 2 minutes peuvent être remportés de plusieurs façons. Dès que l'un des 2 combattants est KO, ou si les combattants sont debout à la fin du temps réglementaire. Un décompte des points sera fait pour désigner le vainqueur. Malgré ce côté simulation, les programmeurs de Human ont trouvé le parfait dosage entre la technicité de la simulation et le dynamisme d'un jeu de combat arcade, rendant le soft agréable à prendre en main et accessible au plus grand nombre. Ne vous arrêtez donc pas au graphisme quelque peu austère, aspect assez récurrent chez Human, de son unique décor ainsi qu'à la bande-son qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, surtout au niveau des bruitages. Vous passerez à côté de l'un des jeux de combat les plus intéressants de la Super Famicom. Enfin, sachez pour la petite anecdote que la version japonaise est bilingue, japonais et coréen. Le jeu a même été officiellement distribué en Corée du Sud. Dans cette version par contre, la langue japonaise a été supprimée. À l'aube des années 80, Don Kingsborough, Mark Robert Goldberg et quelques autres employés d'Atari quittèrent la firme de Nolan Bushnell pour créer la société Worlds of Wonder. L'entreprise, spécialisée dans la fabrication de jouets, se fera connaître grâce à l'élaboration de nombreuses poupées parlantes, dont le célèbre ours Teddy Ruxpin en 85, ainsi que des jouets plus originaux tels que le Laser Tag en 86, ancêtre des fameux Laser Games. Fort de leur expérience acquise chez Atari, les fondateurs de Worlds of Wonder tenteront une percée dans le monde du jeu vidéo d'une manière assez originale. C'est ainsi qu'est commercialisé en 1987 l'Action Max, console de jeu fonctionnant en binôme avec un magnétoscope, les jeux étant stockés sur des cassettes VHS. La machine était très simple d'utilisation, une unité centrale équipée d'un haut-parleur interne gérait les commandes et le score. On y branchait un pistolet optique qui servait de manette ainsi qu'un capteur rouge que l'on ventousait dans le coin inférieur droit de l'écran de la télévision juste au-dessus d'une mire. Stand by for target practice. Cette mire permettait de donner à la console des indications de ce qui se passait à l'écran. Celle-ci clignotait de 2 manières différentes selon si un ennemi ou un allié était à l'écran. Si le joueur tire quand un ennemi est à l'écran, il gagne des points. Au contraire, s'il tire sur un allié, il aura une pénalité. Ce système très simple, mais aussi très basique, est le principal handicap de cette console. Les jeux, entre guillemets, n'étant que des vidéos enregistrées sur VHS, le déroulement est donc identique d'une partie à l'autre, seule la dextérité du joueur changera. L'interactivité très limitée du produit ainsi que son très faible catalogue, 5 jeux et un 6e qui ne sera jamais édité, scelleront bien vite le destin de cette machine au succès plus que mitigé. Quant à Worlds of Wonder, la société ferma ses portes en 1990, victime de ses actifs en bourse, du manque de confiance des investisseurs, aidé par le mini-crack boursier de 1987. Détail amusant, à la même époque, Tim Zito développa le même concept de machine utilisant des cassettes VHS avec le soutien d'un certain Nolan Bushnell via la société Axlon. Aidée financièrement par Hasbro, la console Virtual Vision ne verra finalement jamais le jour. Pourtant, certains jeux étaient déjà développés pour la console, dont 2 titres nommés Night Trap et Serial Shock, que l'on verra finalement débarquer sur Mega CD quelques années plus tard, grâce à l'avènement de la vidéo sur CD-ROM.
Yeah.
If rain were real, it wouldn't be a game.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première émission de cette 7e saison, en espérant que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas non plus à écrire des commentaires. On se donne donc rendez-vous dans quelques semaines. Alors à très bientôt sur Rétrovision.